tout à l'heure, à partir de 21h,
ouvert la nuit.
Chaque soir, on vous attend dans notre salon.
Tania de Montaigne.
Et on n'est pas tout seul.
Bonjour, bonsoir.
Alexandre et Rose.
Alors Elisabeth Carr, on vous a vu tout à l'heure.
C'est vrai, il y a des écrivains, des musiciens, des comédiens, des éthologues.
Des ethnologues, des dessinateurs, des sculpteurs de géants, des danseurs, des arachnophobes.
Et j'ai le sentiment que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
Déconcertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter. La différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant.
Bonjour à tous. Alors, dans la nuit du samedi au dimanche 3 octobre, il n'y avait pas que le passage à l'heure d'hiver, donc. J'habite Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et je me suis fait piquer par un moustique. Donc, je confirme, il y a bien un réchauffement planétaire global. Salut.
Je suis un billet de 500 euros. Je suis prisonnier dans une valise. Il y en a plein d'autres autour de moi. Je quitte à l'instant le salon de Madame Bettencourt. On va me conduire dans les locaux de l'UMP. Je vais servir à financer une autre campagne électorale. Il faut m'aider, me délivrer. Faites en sorte que je sois plus utile. Aidez-moi vite. C'était un message de Planète Financière. Ensemble, luttons pour un monde meilleur.
Vendredi 28, je viens d'entendre l'histoire de Monsieur Kamaté, excusez-moi, j'ai oublié la prononciation, c'est estomacant. J'espère qu'il a eu quelques moments pas trop désagréables et peut-être heureux avant de mourir. Et je me garderai bien de faire des commentaires sur la petite nana et son copain flic, parce que ça serait vraiment pas bon ce que je dirais. Bon week-end, salut.
Je viens d'écouter l'émission du vendredi 28 octobre sur l'erreur judiciaire dont a été victime M. Kagamaté. J'ai bien sûr été très émue par cette émission, et entre autres choses, j'ai noté que M. Kagamaté était analphabète. Il a donc dû se faire lire les documents liés à son procès. Alors, ce n'était que l'un des aspects de cette histoire, et pas le plus important, et ce n'était que l'un des aspects de la situation de M. Kagamaté, mais plus généralement dans sa vie, cet aspect a forcément été essentiel. L'illettrisme est évidemment un facteur de dépendance et d'impuissance. Savoir lire et écrire est une nécessité absolue pour des personnes comme M. Kagamaté. C'est aussi un droit, et c'est enfin, depuis la loi de 2006 sur l'immigration, une condition de l'obtention d'une carte de résident en France. Or, puisque l'État ne prend pas en charge cette mission d'enseignement du français aux étrangers arrivant en France, les cours d'alphabétisation et l'enseignement du français, si on laisse de côté les cours payants dispensés par des organismes privés, reposent exclusivement sur des associations de bénévoles qui voient affluer de plus en plus d'élèves mais qui manquent à la fois de personnel enseignant et de moyens. Je fais partie de l'une de ces associations qui donne gratuitement des cours de français et d'alphabétisation à des adultes d'origine étrangère à Saint-Denis. Actuellement, nous avons en moyenne 50 élèves pour un professeur. Je lance donc un appel aux auditeurs de France Inter qui résideraient à Paris ou en Seine-Saint-Denis et qui auraient un peu de temps chaque semaine à consacrer à des personnes comme M. Kagamaté. Rejoignez-nous et devenez enseignant dans notre association, l'association du foyer Pinel. Toutes les informations sont sur le site foyerpinel.org. Merci Daniel.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà une super nouvelle pour un dimanche matin. Une surprise de 56 milliards. Alors c'est dans Ouest France du dimanche. Incroyable, grâce à une erreur de comptabilité d'une banque, l'Allemagne éponge une partie de sa dette. Enfin, c'est génial. Alors moi, ce que je dirais au gouvernement, c'est qu'avant d'appliquer un plan de rigueur et éventuellement d'augmenter la TVA, ben, ça serait de contrôler la comptabilité de toutes nos banques pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Ça serait con, hein, qu'on nous dise après « Ah, on a fait des augmentations, on n'aurait pas dû. » Salut.
Bonjour à tous les AMG. Je voudrais marquer mon indignation face à ce qu'est en train de faire Nicolas Sarkozy, qui est tout bonnement en train de fusionner, sans aucun mandat populaire, la France avec l'Allemagne de Angela Merkel. On me dira que c'est le comble de l'internationalisme, ce qui est quand même un peu suspect de la part de quelqu'un qui mène une telle politique de xénophobie d'État dans notre propre pays. En réalité, c'est la vieille tradition de la grande bourgeoisie de notre pays. À l'époque de la Commune, ces gens autour d'Adolphe Thiers se sont unis à Bismarck pour écraser les communards. Sous Pétain, on sait ce qu'ils ont fait. En réalité, c'est pas de l'internationalisme, ou plutôt c'est de l'internationalisme des riches, pour écraser les peuples et apporter toujours plus d'austérité, comme en Allemagne, où on travaille pour 3 euros de l'heure. La réalité, c'est qu'il nous faut réapprendre un petit peu à défendre notre indépendance nationale. C'est pas de droite, c'est ce que nous avons fait le 29 mai 2005, même si ce vote a été copieusement bafoué. Et donc, effectivement, il y a deux internationalismes, celui des bourgeois et celui des peuples. Et il y a aussi deux patriotismes, celui du peuple qui défend sa souveraineté et celui, évidemment, des nationalistes, des racistes et ainsi de suite, qu'il faut résolument combattre, évidemment. Donc, je veux dire aux gens de gauche de ne pas se laisser impressionner par ce tapage sur l'internationalisme. Sarkozy et compagnie n'ont aucun mandat pour fusionner la France et l'Allemagne et nous aligner sur un modèle allemand qui est de plus en plus antisocial et patronal. Merci beaucoup.
Ouais, salut à tous. Hier, j'ai vu ma petite fille Clara qui a 4 mois, une toute petite portion comme ça avec les billes grandes ouvertes qui regarde la vie et tout ça. Et donc, mardi 1er novembre, on pensera à elle en allant à Nice à la manifestation anti-G20 parce que, comme l'a dit Dédé Mainviel, ainsi va lui battre la vie. Allez, ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, les vasifs, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on a dit, ménage à question que t'en sortiras pas comme un con. Demain, à Nice, manif anti-G20. Ciao, vive, portez-vous bien.
Enfin, après toutes les nouvelles, mauvaises nouvelles qu'on reçoit de jour en jour, à 13h20 aujourd'hui, j'ai entendu que la France votait pour la Palestine, pour qu'elle puisse rentrer à l'UNESCO. Oh, c'est une victoire pour la Palestine. Et pour nous, les Français, c'est quand même quelque chose qui fait chaud au cœur. J'en aurais pleuré. Au revoir.
Je vous téléphone parce que je suis vraiment catastrophée aujourd'hui. J'ai 2 enfants au cimetière. C'est la fête des morts, c'est la fête des gens. Et puis vraiment, je ne peux pas y aller parce que je suis en attente d'une opération au mois de janvier pour le genou. Et j'ai personne autour de moi. Ma fille est hospitalisée. Je n'ai personne pour aller au cimetière aujourd'hui. Et c'est vraiment catastrophique pour moi. Bon, bien sûr, mes enfants ne vont pas s'en aller, ne vont pas se sauver, mais bon, ils sont dans mon cœur. Mais c'est vraiment, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal. Et je suis pas opérée parce que j'ai pas l'argent nécessaire pour payer le surplus qu'on demande dans les hôpitaux. Bonsoir Daniel, merci, au revoir.
Voilà, merci Colette. On a appelé cette auditrice, Colette, qui avait laissé son numéro de téléphone, et elle est d'accord pour que nous donnions son téléphone à l'antenne, si quelqu'un veut l'appeler, lui parler. Voici ce numéro, 01 46 82 56 97, je répète, 01 46 82 56 97. On indiquera ce numéro à nouveau à la fin de l'émission et il sera sur la page de la base, j'y suis, sur le site de France Inter. On est étonné aujourd'hui parce qu'on s'est dit, oh, c'est le pont et il repose beaucoup de messages dans la boîte vocale de la base, j'y suis, ou alors de petits messages un peu légers. Pas du tout. Vous en avez profité pour nous envoyer des messages nombreux, bien sentis, bien réfléchis. Vous avez pris le temps et on vous en remercie. Aujourd'hui, ben nous aussi, on va faire ça. On va prendre le temps de revenir en arrière dans la mémoire de là-bas. Si j'y suis bientôt, au printemps prochain, on arrivera à 5000 émissions, 5000 numéros de là-bas. Si j'y suis. Et là, c'est une émission qui date de 1993. C'était un reportage de Zoé Varier, que vous connaissez, que vous retrouvez le vendredi soir sur Inter. Et à l'époque, Zoé était allé voir les gens de la mer à Douarnenez. ces 10 journées, il fait beau sur Paris, je ne sais pas chez vous, mais sur Paris il fait très beau, c'est vraiment des journées, on rêve de se balader en Bretagne par exemple, et bien là on va y aller en Bretagne, mais ça ne date pas d'hier, vous allez voir, c'est la mémoire, une mémoire de lutte, une mémoire ouvrière, une mémoire de la mer à Douarnenez dans cette émission qui a été reconstruite par les réalisateurs actuels de Là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis. Je rappelle à nouveau le numéro de Colette, 01 46 82 56 97. 01 46 82 56 97.
Des amis de Là-bas si j'y suis de Limoges accueillera mercredi 2 novembre Ismaël, étudiant burkinabé, qui viendra nous parler de ce dont les médias internationaux font rarement mention dans leurs reportages. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce pays, qui, ne l'oublions pas, est la patrie de Thomas Sankara, assassiné dans des circonstances fort douteuses et sur lesquelles il faudra bien un jour revenir. C'est à 18h30 au bar Le Gousset, rue des Combes, à Limoges.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Et ben, je suis sur le site de là-bas.org en train de réécouter les vieilles émissions, et notamment de l'enfant roi à l'enfant proie. Et je me rappelle que la première fois que je l'avais écouté, Daniel parlait de pédophilie mentale, de quelque chose de traître qui s'insinuait dans le cerveau des enfants. Et à l'époque, je m'étais dit, oui, bon, ben, c'est peut-être un peu fort comme mot, c'est pas non plus... Et ben, aujourd'hui, je pense que tu avais raison. Parce que j'ai pas regardé la télé, enfin, je la regarde peut-être une fois par an, j'ai plus la télé chez moi. Je suis actuellement en cité universitaire et je ne regarde jamais la télé, j'en ai pas loué, je la regarde pas dans la salle commune. J'ai découvert qu'on pouvait vivre très bien sans et que, en fait, on ne s'ennuie pas, c'est incroyable. Mais par contre, il suffit qu'on me dise « et je peux chanter la suite. Alors que ça doit dater de bah, quand j'étais petite. Et puis, une autre chose, c'est que j'ai jamais bu de Pepsi de ma vie. Par contre, j'ai bu du Coca. J'aime pas le Pepsi, il suffit que je vois la liste des ingrédients et je n'y touche pas. Le Coca a à peu près la même liste des ingrédients. Et bizarrement, ça m'a jamais trop répugné. Ça me rappelle trop les ours blancs qui jouent sur la banquise en s'échangeant des bouteilles. Donc on a beau se dire imperméable à la pub, on a beau se dire qu'on a grandi, on a beau... Bah, ce qui nous a marqué quand on était petit, mine de rien, ça reste imprimé. Bonne journée à toutes et à tous, et salut Daniel et toute l'équipe.
Bonjour, Jean-Claude de Montauban. C'était pour signaler que des 1650 licenciements qu'effectue M. Ersan, la famille Ersan, dans la société Comareg, paru vendu, Hebdoprint. Ceci dans un mutisme total des médias, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être lié au prestige de M. Ersan qui doit être très grand. Ça passe au tribunal de commerce de Lyon ce mercredi 3 novembre pour une liquidation totale. Donc je vous dis 1650 fois merci. Au niveau des employés qui sont restés sur le carreau ou qui vont maintenant rester sur le carreau. Merci Daniel, au revoir.
Nous avons été brûlés, mais nous ne fûmes pas consumés. Entre la braise et le hurlement, nous avons apprivoisé l'enfer. Abolissant en nous le temps, nous avons redonné vie à nos ombres. Plutôt que des crimes, nous nous souvenons de l'amour. Et lorsque nous prenons une poignée de cendre fraîche, nous voyons encore en elle le feu noir, où nous nous disons que nous pourrions le voir. C'est un poème de Rajko Djulic hein, qui a été traduit par Marcel Courtiade. Hein. Et alors qu'on est quelques-uns à s'apprêter à célébrer nos morts, ils sont plus d'une centaine à Paris à ne pas pouvoir se réunir pour se recueillir et commémorer la mémoire de l'un des leurs. Ils ne peuvent pas se réunir parce qu'ils ont été dispersés, atomisés dans divers hôtels relogés trois nuits. Ils ont été dispersés parce que leur squat, la Baraka, rue des Pyrénées à Paris, a brûlé dans la nuit de lundi à mardi dernier. Voilà, ils sont une centaine à avoir besoin de soutien. Vous avez des renseignements sur le collectif hein, contre la xénophobie. C'était Damien de Montreuil.
Salut, c'est Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Zoé Varier, Camille, Lisette et Joséphine, la mémoire de la mer. Flight number 2, arriving from New York.
J'ai perdu mon père en mer. J'ai perdu des cousins en mer. Et je n'avais qu'un fils et je l'ai perdu en mer.
Je pense que si j'avais 20 ans, je repartirais encore, peut-être dans d'autres conditions, mais je partirais pour les eaux lointaines, comme ça. Chercher quelque chose qui n'appartient à personne et qu'on a du plaisir à ramener, quoi.
Là, dans sa culotte, un petit fusible, oh, maman.
Et s'il est rouge?
De mieux en mieux.
Un petit fusil de chasse, il n'y a pas de plomb dedans.
Vieille dame et la mère aujourd'hui, trois vieilles dames, trois grand-mères et la mère. C'est tout, c'est que ça, c'est trois vies. Camille, Lisette et Joséphine, trois petites notes de mémoire, mémoire de la mère. C'est tout, trois anciennes petites filles, trois anciennes bien-aimées, trois beautés dans leurs atours, volure noire, calvaire, dentelle sur le quai des chalutiers. Camille, Lisette, Joséphine, 87 ans, 88 ans, 91 ans, trois voix assises au fond d'un couloir dépeuplé, à Douarnenez. Femme de marin, femme de chagrin, trois gens de peu, trois petits feux encore, derrière le rideau, trois bougies. Trois grands-mères, loin de leurs petits,
on ne dort pas dans le lit d'attente. Et
c'est
pourtant,
tout.
Je n'ai...
C'était terrible quand il partait forcément. Il partait comme ça, il partait souvent dans la nuit.
Il disait au revoir et bonne pêche.
Oui. Voilà. Que Dieu te garde.
Surtout dans les tempêtes. Surtout dans les tempêtes. Et on demandait la grâce qu'il revienne.
La misère, oui, c'est de la misère. Parce que vous savez, quand on n'a pas toujours du gain, la vie est pénible.
Il y a 15 jours, en mer, et la femme est seule avec ses enfants à la maison. C'est pas gai, la vie de marin.
J'ai perdu mon père en mer. J'ai perdu des cousins en mer. Et je n'avais qu'un fils et je l'ai perdu en mer.
Une vie de deuil, alors.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous dirai des chagrins toute la vie? J'ai perdu mon fils à 25 ans. Il avait 25 ans. Il était sur un bateau qui s'appelait le Jules Verne. Ils ont été perdus à la pêche de thon avec le mauvais temps. Un mois de décembre, 53.
Septembre
53. Mon père, eh bien, il y avait... 3 mois que j'étais mariée quand je l'ai perdue.
Quand vous étiez petite fille, vous vous rappelez quand votre père revenait?
Oui, mon père était très gentil. Moi, j'étais la plus jeune de 4 enfants qu'il y avait. Et j'aimais bien mon père, oui. J'aimais davantage mon père que ma mère.
Mais c'était la fête?
Oh oui, la fête, il n'y avait pas trop d'argent pour faire la fête quand il venait à terre. S'il n'avait pas pêché, avec le mauvais temps, il n'y avait rien. C'était la misère. Mais on était heureux. Ah ben, on était ensemble et on était heureux. Ça n'a pas été gai. Il n'y avait pas de moteur alors dans les bateaux. C'était à la voile.
Tout le gain dépendait de la pêche. S'il y avait quelque chose, ben... Autrement, on n'avait
si
pas de gain.
Le marin ne gagnait pas, la femme ne gagnait pas non plus, il n'y avait pas de poisson. La femme était à la maison aussi, il n'y avait pas de travail dans les usines. Alors, il n'y avait pas d'argent dans les maisons. Non. À Douarnenez, il y a eu beaucoup de misère dans le temps. Beaucoup.
Mais quand votre fils, par exemple, a décidé d'être marin, vous ne lui avez pas dit non ?
J'ai jamais voulu qu'il soit marin. J'ai voulu le retirer de là. Et il n'y avait rien à faire. Il était avec des camarades qui étaient marins, que les parents étaient des patrons. Les pères étaient des patrons. Et eux sont devenus patrons à leur tour. Il l'a tiré. Jean, viens avec nous en mer. Jean, viens avec nous. Et mon fils aimait ses camarades. Il aimait la maison aussi. Il aimait Douarnenez.
Vous, à cause de toute cette histoire, vous aimez la mer ou vous la regardez même pas ?
Non, je ne pouvais pas la voir dans ces temps-là. Je ne pouvais pas, j'ai été des années, je ne pouvais pas la voir. Non. J'avais la colère après elle. Oui.
Moi, je n'ai qu'un fils aussi. Un fils et une fille. Mais mon fils, j'ai réussi à faire... Je n'ai pas voulu qu'il aille en mer non plus. Il était tout petit, je disais, t'iras pas en mer, t'iras pas en mer. Il n'ira pas en mer. Qu'est-ce qu'il va faire, me disait le père. N'importe quoi, il n'ira pas en mer. Il a fait l'instituteur. C'est plus simple. La vie est meilleure.
Nous étions les maîtresses chez nous.
Tout dépendait de la femme. La femme était le maître.
La femme était la maîtresse chez elle. Oui.
La femme tenait les cordons de la bourse. Que les hommes, souvent, ne s'inquiétaient pas de ça. Ils savaient bien qu'ils étaient... C'était bien, quoi.
Et d'ailleurs, quand on ramenait la paye, comment ça se passait quand les hommes revenaient, vos maris revenaient avec leur paye?
Ben, ils la posaient sur la table, ils nous donnaient leur paye, et nous, on les ramassait, quoi.
On a fait ce qu'on, comme on pouvait, mais sans jamais tendre la main.
On avait sa dignité, on ne pouvait pas se plaindre. Alors celui qui n'avait pas, il fermait la porte, après c'est tout, puis il faisait avec ce qu'il avait.
On ne montrait pas.
On ne montrait pas, jamais. Jamais. On crânait, au contraire. Voilà, c'était encore une fierté.
On passait dans les rues, et personne ne savait dans quelle situation que vous étiez. Non.
Mais seulement, il y avait des personnes aussi dans les maisons, dans les immeubles, où il y avait beaucoup de personnes à l'époque. Il y avait beaucoup de chambres, tout ça. C'était, les gens vivaient à 4 et 5 dans une seule chambre. Alors si elle avait pu faire un pot-au-feu ou quelque chose, elle aurait dit, ben, moi je fais du pot-au-feu aujourd'hui, on va vous donner... Venez, on va vous tremper la soupe.
Ils allaient en mer, mais ils ne savaient pas de quoi, ils leur disaient, t'es payé. Peut-être ils auraient eu peu, c'était rare qu'ils avaient beaucoup, mais toujours c'était plutôt peu que beaucoup. Et alors on priait, parce que les marins ne sont pas payés de leur travail. Ça n'a jamais été. C'est pourquoi il y a moins aujourd'hui.
Quand il y avait du vent, c'était terrible.
Vous ne dormez pas.
Vous avez passé une vie sans dormir.
Sans dormir. Quand ils n'étaient pas là et qu'il y avait du mauvais temps, on ne dormait pas.
Et ce qui est le plus marrant maintenant, c'est que même quand il y a de la tempête, moi, je ne dors pas. Hein.
C'est ancré, c'est en nous. Même maintenant, ils sont tous morts. Les malheureux, les biens, quand même. On a ça.
On sait qu'il y a toujours quelqu'un sur l'eau. Hein. Il y a toujours du monde sur l'eau. Il y a toujours des hommes en mer.
Sacré coup de vent qu'il y a eu là, des jours entiers, nuit et jour, des pères, des familles qui n'ont pas de peine.
On pense toujours à ceux qui sont dehors de la maison quand il y a la tempête, c'est comme ça, c'est malgré nous. Puis on ne dort pas dans le lit d'attente, et pourtant je n'ai plus personne, et bien j'ai peur toujours pour les autres.
L'été, c'est joli quand tous les touristes sont là sur les plages. Archicombe. Mais nous avons pleuré.
Ça vient d'un moment à un autre.
Elle
hein.
Et voilà, tout d'un coup, elle se réveille. Elle est méchante.
Vous n'alliez pas sur le quai? Jamais?
Non, non, je n'allais pas. Je restais chez moi. J'attendais qu'on vienne à la maison. Oui.
Et alors, quand votre mari arrivait à la maison, comment vous aviez préparé à manger?
Oui, tout était prêt.
On en pensait.
Oui, et j'ai même dit l'autre jour, à table, là, quand on était, je dis, mais moi, en tous les cas, j'ai quelque chose de plus que vous, je leur dis. Hein, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un baiser sali.
Il était bon, ce baiser-là.
Ah, je pense bien. Surtout quand il est au milieu de la nuit, vous savez qu'on savait qu'il y avait de la grosse tempête. C'est quelque chose.
Il durait un peu plus longtemps que les autres, que les autres baisers.
Mais quand il est au milieu de la nuit, à la maison, c'était alors le baiser salé. Mais à table, autrement, c'était comme d'habitude. Quoi.
Et il vous raconta des choses, il parlait ? Vos maris vous parlaient ou ils restaient dans leurs pensées, comme
il
ça ?
Ils dans leurs pensées plutôt. Ils ne parlaient pas beaucoup, beaucoup de la mer. Hein. Mais de l'essentiel, les misères qu'ils avaient eues, tout ça, quand ils faisaient la pêche aux palangres, par exemple. On savait qu'ils avaient tous les mains écorchées à force de tirer sur les palangres, mais ça, ils n'en parlaient pas. C'est silhouette, tout ça.
Toujours de les enfants voyaient par leur père beaucoup, ouais, parce qu'ils étaient toujours en mer. Et quand ils rentraient, ils allaient pas au lit aussi, fatigués. Allez jouer dehors, on disait aux enfants.
Mais c'était des hommes attentifs.
Oh, je pense bien qu'ils faisaient attention à nous.
Ils aimaient leur famille, oui.
On vous rapportait des cadeaux ?
Oh, en mer, non, alors. Quel cadeau ? Pour manger. En mer, il n'y a pas de cadeau.
Quand il rentre, c'était le baiser salé, comme cadeau.
Mes sœurs n'aimaient pas les marins. À peine ils sont venus qu'ils partent. Mes sœurs n'aimaient pas les marins, il faut vivre dans le chagrin et les suivre sur une carte. Mes sœurs n'aimaient pas les marins. Mes sœurs n'aimaient pas les marins, nous n'avons pas vu ce qu'ils virent. Mes sœurs n'aimaient pas les marins, je les aimais et je les crains, car ils n'aiment que leur navire. Mes sœurs n'aimaient pas les marins. Mes sœurs n'aimaient pas les marins. La solitude et leur royaume. Mes sœurs n'aimaient pas les marins. Où les suivre et sur quel terrain? On aime en eux que des fantômes. Mes sœurs n'aimait
pas les marins. Je ne sais pas comment elle les attire, mais ça a toujours été dit comme ça, que la mer attire. Oui, elle attire, il y a quelque chose dans la mer. Son reflux, peut-être que... Je ne sais pas. Parce que c'est une drôle de chose, ça. Elle est jolie, la mer, mais elle est traîtresse.
La mer est traite.
Moi, j'ai jamais été dans un bateau. Je ne voulais pas. J'ai jamais été sur la mer. Je ne voulais pas. J'ai jamais aimé la mer.
Quand je voyais la mer, quand je regardais le fond, oh là.
Est-ce que vous êtes baigné dans la mer? Est-ce que vous aimiez vous baigner?
Baigné, c'est-à-dire trempé, hein? Trempé. J'ai jamais eu un costume de bain, c'est mon derrière.
Alors, on disait pas une blouse, on disait un sarrau. On appelait ça un sarrau. Et on le tirait, et on le mettait sur nous, et on allait dans la mer faire trempette dans l'eau. Mais pour nager, je ne savais pas nager. Si.
Et vos maris?
Non, je vous dis que le mien ne savait pas nager. C'est quand il est parti au service militaire qu'il a appris à nager.
C'est-à-dire que quand il était mousse à 12 ans, quand il est monté sur les bateaux vers 12-13 ans, quand il était mousse, il ne savait pas nager?
Non, il ne savait pas nager. Moi, mon fils savait nager comme un poisson.
Et votre mari?
Non, non plus. Et pourtant, il était de Plomard. filature. Je suis rentrée à 13 ans et j'ai eu 3 sous de l'heure. Pour commencer, les ouvrières avaient 6. Oui. Vous vous rendez compte? 6 sous.
Oui. Dans les usines, les usines de poissons, c'était pareil. Mais moi, j'avais 17 ans quand je suis rentrée à l'usine. Eh bien, on m'avait donné 4 sous comme les femmes. Oui, on m'avait donné. La maîtresse était très gentille, la patronne. Oui, oui.
Comment c'était le travail dans les filatures?
Les filatures, ben, c'était pareil. Seulement, il y avait les machines qui faisaient les filets. Mais c'était l'usine.
Et vous travailliez combien d'heures par jour?
Oh, je me rappelle que le premier jour que je suis descendue, à 13 ans, 1er mai 1919, c'est pas aujourd'hui, hein? Oui. Et j'avais 13 ans. Et que j'ai commencé le matin à 8 heures, de 8 heures à 12 heures, d'une heure et demie à 6 heures, on rentrait de 7 heures à 10 heures et demie.
Et vous étiez debout toute la journée?
Ah, debout toute la journée, oui. De temps en temps, comme il y avait une fenêtre derrière, on pouvait s'asseoir sur le rebord de la fenêtre, mais enfin, alors c'était pas indiqué, quoi.
Et pas de vacances?
Non, rien. Jusqu'à 36. Les premiers 15 jours de vacances, ça a été quelque chose, hein. Parce que nous sommes dans des filets en mer. Les hommes faisaient la pêche au maquereau à l'époque. Et la pêche au maquereau, il fallait un nombre de filets que chaque marin avait. Il mettait sa côte part et il mettait des filets en mer. Donc, on n'avait pas toujours le temps de les raccommoder. Alors, on mettait des tas. Si bien que quand les vacances sont venues, on en a profité. On les a tous ramandés. On les a mis en ordre comme il fallait pour l'année suivante. On les a cachoutés parce qu'il fallait faire du cachou.
C'est-à-dire?
Très dur, très dur.
Les tannées.
On faisait une teinture au filet. Et ce cachou venait des Indes et que la filature vendait. Et alors, on faisait chauffer de l'eau. Après que les fils étaient ramandés, étaient tout prêts à remettre à l'eau, mais il fallait leur faire un bain. Et on faisait bouillir de l'eau avec du cachou dedans. Et alors on trempait les filets. C'était pas une petite chose. Avec ce feu, ce poids lourd qu'il fallait mettre dans l'eau et retirer de l'eau bouillante, hein, il fallait les faire bouillir, les faire sécher. Et quand ils étaient secs, il fallait les ramasser de nouveau. Pendant les 15 premiers jours, on a fait tout ça. On les a ramandés, on les a cachoutés. On les a retournés au grenier, au troisième étage. Après ça, il restait quoi un jour? Un jour de vacances encore. Alors ma tante me dit, et si on faisait la tapisserie? On avait la tapisserie dans la chambre. Eh bien, c'était bien. Et c'était 15 jours bien placés. Hein.
Voilà vos premières vacances.
Oui.
Enfin, il y a des jours qui sont bons, d'autres qui sont pas. Pour nous, c'est toujours bon.
Oui, autrement. Moi, j'aime bien venir en mer. On dit qu'on ne tombera plus sur l'eau, mais on ne peut pas se passer de la mer quand même.
Chaque fois, on retrouvait soit le corps un mois après sur la plage, bouffé par les chacals ou quelque chose. Mais arrivé de retrouver un matelot là, qui avait été à moitié dévoré par les chacals, il n'avait plus de tête, quoi. On avait reconnu grâce à cet événement. Je pense que si j'avais 20 ans, je repartirai encore, peut-être dans d'autres conditions, mais je partirai pour les eaux lointaines, comme ça. Chercher quelque chose qui n'appartient à personne et qu'on a du plaisir à ramener, quoi.
Les femmes de marin ne cessaient pas.
Jamais.
Non. Il y avait toujours un filet à la fenêtre, après. Toujours des filets, toujours. La femme de marin était une esclave. Oh oui, des enfants.
De
oui, femme de marin, femme de chagrin. Oh, une esclave. En plus des enfants et tout ça, encore quand ils étaient à l'école, on était à l'usine. À mettre le poisson en boîte.
Dans les conserveries, vous avez travaillé?
Moi, chez Chemin. Une bonne usine. Si je me marie, je ne prendrai plus un marin.
Thank you.
la mère, c'est... Elle a toujours quelque chose à dire pour nous. Elle n'est jamais pareille, quoi. Et puis, c'est encore le seul coin, on est libre. On la craint quand même, parce que... Et puis, on l'admire, en fait. De pouvoir la dompter, quoi.
Et on est fiers.
Oui, on est fiers après de soi, oui, je pense. Je pense qu'on peut les comparer un petit peu, les mineurs et les marins. Avec l'avantage qu'on avait, nous, d'être libres, eux n'étaient pas. Puis de voir le ciel au-dessus de sa tête et la mer à côté. C'est un peu comme une fille qu'on n'a pas eue et puis qu'on va avoir, quoi. Je crois que la mère et les filles ont quelque chose en commun, quoi.
Quoi?
Bon, on sait jamais, qu'est-ce qu'ils pensent, jamais qu'est-ce qu'elles vont faire. Puis quand on aime quelque chose, je crois, ben, on aime du fond du cœur, quoi. On peut jamais la prendre, elle, vraiment, quoi. Elle prend beaucoup et puis elle donne peu. Je pense que c'est la femme idéale, celle qu'on voudrait avoir à soi toujours et puis qu'on n'a peut-être pas et qu'on cherche.
À quel âge vous avez commencé à travailler ?
13 ans, juste. On m'avait mis un bonnet et en route.
Combien vous gagniez ?
De ce temps-là, 2 sous probablement, non ? Quand le poisson venait à terre, on l'emportait dans les usines. Et les femmes alors les détêtaient, tiraient les boyaux. Et après ça, on les passait à la saumure. De là, on les mettait sur des grilles. Pour sécher. Et après ça, alors, on les passait à la bouillotte avec les grilles pour les cuire.
Pour les mettre dans de l'huile.
Dans de l'huile bouillante. Et après ça, quand, pour le lendemain, elles étaient égouttées, secs. Eh bien, on les emboîtait. On les mettait en boîte, alors. On aimait notre travail. Non. On l'aimait, oui. Oui, moi j'ai aimé mon usine.
Mais moi aussi.
Vous aussi, vous avez aimé votre usine ?
J'aimais travailler à l'usine. Mais seulement, des fois, on restait tard, jusqu'à 2 et 3 heures du matin.
Pourquoi ?
Eh bien, pour finir le travail.
Le poisson parfois arrivait très tard à terre. C'est pour ça, s'il arrivait à 10 heures du soir, il fallait faire le travail, parce que pour le lendemain, c'était plus pareil.
Il fallait retourner à 8 heures du matin au travail, après qu'on a été jusqu'à 3 heures. Celui qui avait des enfants pour envoyer à l'école hein, à 8 heures, eh ben, il fallait se débrouiller et faire un peu de ménage avant d'aller à l'usine. On avait une pièce et elle était propre. Hein.
Elle était propre.
Il y a toujours un cas, oui. C'était ça, oui.
Et vous avez fait des grèves pour avoir des augmentations de salaire.
Oui. La grève de 24, on a fait, oui.
24-25.
Oui. Oui, c'est la misère qui nous a poussés.
On n'arrivait plus, non.
La vie augmentait.
Oui, l'heure n'augmentait pas. Et puis un jour, on a dit, ben, on va faire la grève, et puis on verra bien. Et nous avons eu du monde de Paris. Lucie Coyard et Tillon étaient venus nous aider, heureusement. Vive Tillon.
On a fait la manifestation, oui.
Vous aussi, dans les filatures, vous étiez
oui,
en
pareil, grève. Pareil, c'était pareil.
Ça faisait partie de la mer, des marins et des femmes.
Les pêcheurs aussi ont fait grève en 24.
Oui, en même temps. On ne pouvait pas travailler. Ils ne pouvaient pas aller en mer. Qui aurait travaillé le poisson? Ils étaient obligés de rester à terre. Et il y avait aussi le député Henriot, je crois, Henriot, qui était venu nous aider aussi, il était venu voir Douarnenez aussi. Il était là quand il y a eu la grande révolte à l'eau et qu'on avait mis le feu à l'Hôtel de France.
On a mis le feu à l'Hôtel de France puisque des briseurs de grève sont venus et ils ont tiré sur Flanchec, qui était le maire communiste à l'époque. Et alors... Et qui, alors, les briseurs de grève se sont sauvés et sont rentrés dans l'Hôtel de France qui était là.
On avait payé ces gens-là pour venir nous faire la misère.
Combien de temps vous avez fait grève en 1924 ? Combien de jours ?
Plus de 3 semaines.
Plus de 3 semaines.
On avait tout le mois de décembre, oui. Et puis on avait
un mois ou davantage, je ne me rappelle plus.
Vous avez obtenu quoi après la grève ?
Les 25 sous de l'heure.
Tellement qu'on avait crié, 25 sous, on aura que notre gorge était irritée et tout après. On avait été obligé d'aller tout au médecin.
Comment est Édouard Nonet pendant la grève ?
Et jamais elle sera si triste qu'elle a été pendant la grève. Aucun magasin ne travaillait, tout était baissé, tout. La tristesse, le deuil était même à Édouard Nonet. Mais enfin, on a réussi. Dieu merci.
Il y avait le drapeau rouge qui flottait et ils l'ont chanté. Le voilà, regardez sur la foule immense qui bouge. Il jette ses flots empourprés. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier.
Nous parlons comme ça, mais tout le monde ne parle pas comme ça.
On est chrétienne malgré tout, mais on ne va pas communier.
On laisse parler derrière les curés, mais autrement, on pense au bon Dieu.
Ah oui, on pense qu'il y a un Dieu.
Oui.
Chaque matin, au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers, petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le froid, jusqu'aux vieillards, les mères de famille. Pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Ces ouvriers, en quittant leur demeure, sont-ils certains de revenir le soir? Car il n'est pas de jour ni même d'heure que l'on envoie victime du devoir. Car le travail est un champ de bataille où l'ouvrier est toujours le vaincu. S'il est blessé, qu'importe qu'il s'en aille à l'hôpital puisqu'il n'a pas d'écu. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Combien voit-on d'ouvriers, d'ouvrières blessés soudain par un terrible engin? Que reste-t-il pour eux? C'est la misère en récompense d'aller tendre la main. Et sans pitié, l'on repousse ces braves après avoir rempli leur coffre d'or. Les travailleurs ne sont que des esclaves sous le courroux du maître du trésor. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions.
Allez, c'est bien.
On chantait des mauvaises chansons aussi, c'est pas toujours des cantiques.
Non.
Des chansons, et de drôles aussi.
on disait les prières, et après les prières, c'était les vilaines chansons qui venaient, quoi. Et qui nous faisaient rire. Là, dans sa culotte, un petit fusil blanc, maman.
Et s'il est rouge.
Un petit fusil de chasse, il n'y a pas plomb dedans. Oh ben, on chantait toutes sortes de choses, et le travail, ça nous tenait à éveiller. On n'était pas mauvais. On ne savait pas ce qu'on chantait même. On était jeunes filles, on ne chantait pas.
Ce petit fusil blanc, là, c'était plutôt rare qu'on le chantait. J'ai commis les contremaîtrices, puisque nous avions aussi des super. Et bien vu, elle était contente. Elle était contente quand on chantait. Elle nous disait son nom, chantez, chantez. La vie semble plus jolie. Toutes les oublieuses, un doux baiser d'amoureux sur la terre pour être heureux. Il suffit de peu de choses. On oublie les jours moroses quand on s'aime bien tous les deux.
Dans tous les coins de rue, il y avait des filets en pendant.
Vous savez qu'à l'époque, c'était la pêche à la sardine en été. Et alors, pour faire la pêche à la sardine, ce sont des filets bleus.
Ça, on mettait en
et alors, elle les mettait en pendant du grenier, quoi, et qui pendaient sur le trottoir souvent pour qu'elles puissent sécher. Oui. Ça avait la hauteur.
Et les marins, quand ils venaient à terre, les filets bleus en pendant des mâts à venir.
Ah, c'était joli.
Ah, c'était joli à voir les bateaux à venir, le filet bleu en pendant, et les mouettes alors. Qui venait après les bateaux. Oui, c'était joli. Et voilà, les bateaux ne revenaient pas.
C'était plutôt rare les années qu'on perdait des hommes en mer. Non, chez nous, c'était les enfants élevés après sans père, comme de juste. Il fallait les abandonner pour aller travailler.
Moi, j'ai eu deux frères à la guerre 14, et ils sont venus mourir à la maison, sans pension, sans rien. Ils avaient hâte de rentrer chez eux. Ils n'ont pas passé l'hôpital avant de rentrer.
Beaucoup de marins, c'était ça. Quand ils parlaient de la mer, ils se disaient, peut-être si j'avais l'air de Douarnenez, l'air de la mer, je serais sauvé. Ils rentraient. Puis souvent, ils restaient leurs papiers après eux, quoi. Et un an après, ils étaient morts.
Sans pension.
Sans pension, sans rien.
On s'amusait à Douarnenez.
C'est à Douarnenez qu'on pêche la sardine. Par milliers, par milliers, on les porte à l'usine. C'est un pays charmant où partout l'on prétend que pour bien s'amuser, c'est à Douarnenez qu'il faut débarquer.
Eh bien, on se déguisait. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est se déguiser ?
Je sais.
Et après ça, il y avait des balles. Et comme ils étaient masqués, on ne savait pas qui c'était. Ben, on s'amusait et on chantait et on dansait.
Vous avez rencontré où vos maris ? Dans des fêtes ou pas ?
Dans des balles, ils dansaient si bien. Et que maintenant, je ne peux pas tourner.
Elle a tellement dansé.
Valser tout ça, ouais. Il n'y avait que le tango que je refusais. Non, monsieur, je ne danse pas le tango.
Alors, vous avez rencontré votre mari au bal.
Quand on a dansé une fois, on va chercher deux fois ou trois fois, et après, ça continue. Hein.
Et vous saviez, il était déjà marin ?
Oui, à 13 ans. Tous les petits hommes chez nous, à 13 ans, dans le bateau. C'est le destin, oui.
Un destin qui nous plaisait en plus. On ne voulait pas se marier avec autre chose. Jamais j'aurais voulu me marier avec autre chose qu'un marin.
Avec un paysan. Ah non, merci.
Même un faillot. Un faillot, c'était un marin de la marine nationale.
Oui. Oh, avec trop
de galons. Oui, trop. Il valait mieux un marin, c'était beaucoup mieux.
Nous, on n'aimait pas les galons, non. Non. Plus pas ça des faillots, qu'ils sont de race. Mmh.
Les faillots, à quelle sale race, il faut qu'on s'en débarrasse. Après, je ne sais plus.
On a beau crier dessus. Les marins sont toujours cocus.
Mais qu'est-ce qu'ils avaient en plus, ces marins?
Quelque chose qui nous plaisait. Quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Moi, j'ai connu le mien à 17 ans, ça vous dirait? On ne serait pas allé dans n'importe quelle famille.
Ah oui, il fallait montrer pas de planche encore plus.
Il fallait montrer pas de planche en plus.
Et on était difficile. On était difficile. Il fallait que la famille plaise aussi. On serait pas.
Mère,
oui. On n'avait pas besoin d'une qui mettait du tabac dans son nez, ni qui levait le verre, hein. Non.
Le marin ne s'habillait pas, comment dirais-je, nous on disait traglac, quoi.
Oui.
Non. Tandis qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est le marin, de l'homme qui n'est pas.
Les marins ne s'habillaient pas de la même façon.
Un marin, c'était plus prestigieux qu'un ouvrier. Se marier avec un marin, c'était mieux.
Pour nous, filles de marin. Oui, puis habituées dans le marin.
Il fallait être habitué. Et sortir d'une famille de marins pour comprendre le marin. Parce qu'il y avait des mois où on ne gagnait rien, d'autres mois où on gagnait davantage.
Et bien, tandis que l'ouvrier, c'est toujours la même paye. Et tous les jours,
il fallait savoir économiser.
Toujours.
Oui, toujours.
Jamais dépenser. Jamais. Jamais, jamais, encore. Notre vie a été toujours comme ça, encore. À attendre quand il y avait du mauvais temps. On vivait, mais comme si on ne vivait pas. Avec la peur. Puisqu'on voyait arriver chez les autres, on disait toujours pourquoi pas chez nous. On pleurait pas tous les jours, hein. Non, quand le temps était mauvais. Là.
Mais vous pleuriez au moins?
Pleurer. Mais on ne montrait pas autrement. Hein. On n'allait pas dehors pleurer, hein. On était fiers de caractère. Oh, ma oui.
Tout le monde était logé à la même enseigne. On était tous pareils. Oui.
Et quand on entendait un malheur chez une voisine ou ailleurs, on dit « Oh mon Dieu, demain ce sera le nôtre. » On a vécu avec la peur quand le temps est mauvais. Et souvent, ça nous a pris dans la nuit, ouvrir sa fenêtre pour voir quel temps qu'il fait. Je ne suis pas calmé encore. Et moi, j'étais en bord de mer, moi, j'étais à deux pas de la mer. Rien que pleurer, avec la peur. Et quand on est venu nous envoyer ces nouvelles-là, demander à... Mais... Il y a le maire, il y a le prêtre,
il y a l'administrateur.
Il y a tout ça devant vous, là.
Moi, je les avais poussés tout dehors de chez moi quand je les avais vus auprès de ma porte. Non, je cherchais à fermer ma porte, mais ils avaient mis leurs pieds pour empêcher que je ferme la porte. Ils m'avaient attrapé par la main et ils me disent « Pourquoi que vous me dites non? Qu'est-ce que vous pensez ?» qu'il me dit « Eh bien, vous venez m'envoyer une mauvaise nouvelle de mon fils, je dis. »
Et ils sont partis?
Non, ils sont restés dans la maison alors pour me dire alors comment que c'était arrivé, quoi. Ils avaient su, quoi.
Vous avez eu le corps de votre fils?
Jamais. Jamais. J'ai été... Dès moi, j'allais sur le port, sur la digue. Ma tête n'était plus bien, sans doute. Voir si j'aurais vu le corps à venir. Je priais la Sainte Vierge, envoyez-le. Puisque je disais mes prières et que je lui disais de m'envoyer mon fils. Je croyais que ça venait. Non. Non. J'ai eu des drôles de moments.
Femme de marin, femme de chagrin.
Merci. Merci Camille. Merci Lisette. Merci. Joséphine, c'était une nouvelle version de La mémoire de la mer, un reportage de Zoé Varier qui a été diffusé pour la première fois dans La basse, et j'y suis, en octobre 1993. Camille avait 87 ans, Lisette 88 ans, Joséphine 91 ans à ce moment-là. Autre chose tout à fait différent, vous le savez, le sommet du G20 se tiendra les 3 et 4 novembre prochains à Cannes. Un contre-sommet est organisé à partir de demain à Nice, 41 organisations citoyennes appellent à venir manifester demain sous le mot d'ordre « Les peuples d'abord, pas la finance » dans les rues de Nice. Départ de l'esplanade de l'Âtre de Tassigny à 15h devant le palais des expositions. C'est un message de l'équipe de là-bas, si j'y suis. Je n'y suis évidemment pour rien, vous vous en doutez. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, et sur le site de là-bas.org où vous pouvez réécouter cette émission. Je rappelle le numéro de Colette qu'on a évoqué au début de 7h, 01 46 82 56 97, 01 46 82 56 97. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Gilles Gaillard, c'est Bertrand Chemeton et Franck Adhérère qui ont réalisé cette émission, à cité de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Tout le monde connaît la rougeole. Cette maladie très contagieuse qui donne des plaques rouges sur tout le corps.
Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'elle ne concerne pas que les enfants. Et surtout, qu'elle peut être grave.
Chez les 15-30 ans, elle conduit à l'hôpital dans un cas sur trois.
En France, on la croyait disparue. Et pourtant, la rougeole est de retour.
La seule protection, c'est la vaccination.
Si vous avez entre 15 et 30 ans, vérifiez vos carnets de santé. Parlez-en à votre médecin.
Plus d'informations sur info-rougeole.fr. C'était un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé.
Hop là, regardez l'euro d'Alsace, une jolie pièce d'argent, 10 euros.
Et peu cher, on voit plutôt le nôtre. L'euro de province, il brille comme le soleil de chez nous.
Et arrêtons, cher, l'euro du Nord, le soleil, il a dans le cœur.
Retrouvez vite l'euro de votre région dans votre bureau de poste participant. Les euros des régions 2011, de nouvelles pièces de 10 euros en argent de la monnaie de Paris. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée.
Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec ?
Oh, Fada, elle est en argent, garde-la.
16h et quelques secondes sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Barack Obama rencontrera cette semaine Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Des entretiens bilatéraux qui auront lieu donc jeudi pendant le G20 à Cannes. Forcément, la crise de la dette sera au programme de ces rencontres. En attendant le G20, ce sont les altermondialistes qui vont donner de la voix. Ils se sont donné rendez-vous dès demain pour un contre-sommet à Nice. Leur slogan, les peuples d'abord, pas la finance. Une manifestation est prévue dès l'après-midi. C'est un moment historique qui rend à la Palestine certains de ses droits. La Palestine est le berceau des religions et des civilisation. La réaction cet après-midi du ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne à l'adhésion en tant qu'État membre à l'UNESCO. La conférence générale de l'UNESCO a donc voté par 107 voix pour, 14 voix contre et 52 abstentions pour l'adhésion donc de la Palestine en tant qu'État membre à part entière de l'UNESCO. 11 maires et parlementaires réunionnaires de tous bords ont envoyé une lettre à Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Ils lui demandent des moyens de lutte aérien adaptés pour lutter contre l'incendie du parc national de la Réunion. 8 hélicoptères, dont 4 seulement bombardiers d'eau, opèrent actuellement sur la zone. Pas suffisant, selon ses élus. 601 morts, 2000 bâtiments détruits et 1 millier de sans-abri. Dernier bilan donné aujourd'hui du séisme qui a frappé l'est de la Turquie la semaine dernière. 8 jours après le tremblement de terre, l'eau et l'électricité ont été rétablis dans plusieurs secteurs de la région sinistrée. 4 civils et 1 déserteur ont été tués aujourd'hui en Syrie. Dernière violence relatée par l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Le régime de Bachar el-Assad reste sourd aux mises en garde de la communauté internationale, mais aussi aux propositions de ses voisins. La Ligue arabe réclame la fin des violences, le retrait des chars et l'ouverture au Caire d'un dialogue entre le régime et ses opposants. Elle attend donc la réponse pour aujourd'hui. De son côté, la France s'est félicitée aujourd'hui de ce message de fermeté. Soua Arafat rejette les accusations de corruption dont elle fait l'objet. La veuve de Yasser Arafat est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il a été émis aujourd'hui par la Tunisie. D'après les sites d'information tunisiens, Soua Arafat est poursuivie pour corruption dans l'affaire de l'école internationale de Carthage, école qu'elle avait fondée en 2007 avec Leïla Trabelsi, l'ex-première dame de Tunisie. En France, la ville de Toulouse sera à nouveau partie civile au procès en appel de la catastrophe d'AZF. Elle le fait savoir aujourd'hui. La ville de Toulouse n'admet pas que le propriétaire de l'usine Grand Paroisse du groupe Total ait été jugé moralement coupable mais pénalement innocent en première instance. La première audience du procès en appel d'AZF aura lieu jeudi. Le procès doit durer 4 mois. L'explosion de l'usine AZF le 21 septembre 2001 a fait 31 morts, des milliers de blessés et 27 000 logements et bâtiments publics sinistrés. BASF souhaite cultiver et commercialiser une pomme de terre génétiquement modifiée. Le groupe de chimie allemand en a fait la demande aujourd'hui auprès de l'Union européenne. La pomme de terre est destinée à l'alimentation humaine et animale. Son introduction sur le marché est prévue pour 2014-2015. Vous écoutez France Inter, 16h03. Et tout de suite, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Et bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Hélène Grimaud, grande pianiste, magnifique personne et personnalité très affirmée aussi, qui écrit « Je suis une gauchère pure ». Bien, cette gauchère va être avec nous. C'est la Cité de la Musique qui organise ces rencontres. Ça va durer un certain temps puisque pendant tout le mois de novembre, en tout cas pendant tout le début et puis vers la fin encore de ce mois, on va pouvoir rencontrer Hélène Grimaud à travers son domaine privé. Et elle dit donc qu'elle est gauchère et que sa main gauche est la reine indétrônable. J'ai des mains inégales, la droite est plus grande, la gauche plus trapue, et je suis ravi de ne pas être associé à la main droite parce que mon être entier est gaucher. La droite, c'est la norme, c'est l'ordre, la gauche, c'est le fantasque, et je suis plus pour le fantasque que pour l'ordre. Je suis contente d'être gauchère, indépendante, mes mains vivent plus librement, ma main droite est obligée de se surpasser, de s'inventer pour se hisser à la hauteur d'un répertoire qu'on n'a pas écrit pour elle. Ensemble, suspendus au-dessus du clavier, mes deux mains dessinent dans l'air la multiplicité des possibles. Voilà, c'est tiré de Variations sauvages d'Hélène Grimaud. On va l'entendre tout de suite dans un disque qu'elle a publié chez Deutsche Grammophon. Mozart au programme avec, par exemple, le 23e concerto. On va arriver tout près du thème magnifique, vivant, bondissant, même de l'Allegro assai. Donc, ce qu'on appelle en théorie musicale une transition ou un petit pont